Bonjour. Je voudrais présenter aujourd'hui un ouvrage tout à fait exceptionnel intitulé Traces de vie à Auschwitz. Il s'agit de l'édition commentée de l'introduction au recueil Auschwitz, un manuscrit clandestin datant de 1945. Ce texte a été rassemblé et dirigé par Philippe Ménard. Les traductions du yiddish ont été faites par Batia Baum et Rachel Hertel, et celles de l'anglais et de l'italien par Philippe Ménard lui-même. Le tout est paru aux éditions Le Bord de l'eau en 2022. Dans son avant-propos, Philippe Ménard souligne une inversion des codes. On a l'habitude, écrit-il, de lire des témoignages dont l'auteur est clairement identifié. Robert Antelme, Varlam Chalamov, Charlotte Delbo, Zalmen Gradovski, Imre Kertész, Primo Levi, David Rousset, Alexandre Solzhenitsyn, Germaine Tillion, Elie Wiesel. Ces auteurs ont vite vu leurs noms associés à leur destinée, les deux portant la lourde charge testimoniale et mémorielle de la violence subie par le groupe ou la communauté qu'ils représentent. Même s'ils se font l'écho des paroles de celles ou ceux qui appartenaient au même convoi, au même bloc, à la même équipe qu'eux, leurs textes n'en restent pas moins identifiés à leur nom, renvoyant à une individualité, non aux représentants d'une collectivité. Plus encore, les titres de ces livres, grâce auxquels leurs auteurs ont été célébrés, primés, panthéonisés et certains nobélisés, fonctionnent comme des balises dont la sombre lumière impressionne immédiatement. Si c'est un homme, la nuit, être sans destin, l'archipel du goulag. Ici, avec le texte présenté, les codes sont inversés. Déjà son titre, Das Sammelbuch Auschwitz, n'en est pas vraiment un. Sa traduction littérale est Le recueil Auschwitz, dont ne nous est parvenue que l'introduction, qui en expose le projet. Un projet périlleux, ajoute Philippe Ménard. Dès que on l'appelle l'introduction au recueil d'Auschwitz, le mot recueil signale d'habitude un genre, un sous-titre plutôt qu'un titre. Quant au fait qu'il soit d'Auschwitz, lieu de l'intérieur duquel on imagine mal qu'une œuvre de culture puisse provenir, cela apparaît déconcertant. Son histoire, qui sera retracée justement dans ses traces de vie à Auschwitz, montre ce texte demeurant longtemps dans une sorte de pénombre mémorielle dont il n'est sorti sporadiquement que pour être accommodé aux exigences de contexte de réception occasionnelle pour vite retourner au purgatoire de la grande bibliothèque universelle où il n'avait que le statut d'archive. À cela s'ajoute un débat qui n'a jusqu'à maintenant pas vraiment eu lieu autour de son auteur. Permettez-moi de citer le tout début de ce recueil d'Auschwitz, de cette introduction, traduit du yiddish par Batia Baum. En guise de préambule, la traductrice donne l'explication suivante. En été 1945, Abraham Levit de Brzeziw, près de Sonik, Pologne, alors réfugié à Stuttgart, en Allemagne, a remis le document suivant au rabbin aumônier Maurice Dembowitsch. Par l'entremise des professeurs Avraham Yoshua Eschel et Max Arzt du séminaire théologique de New York, le manuscrit a été transmis au YIVO, le Centre d'études et d'histoire du yiddish et de la culture juive d'Europe centrale, créé en 1925 à Vilno, alors en Pologne, aujourd'hui Vilnius. À partir de la Seconde Guerre mondiale, ce YIVO est déplacé à New York. Il est publié donc ce texte sans correction, même en ce qui concerne l'orthographe. Seules quelques minimes améliorations stylistiques ont été apportées dans la note de présentation. Effectivement, le texte figure, une page du manuscrit figure dans cet avant-propos. Voici donc le texte d'Abraham Levit. Printemps 1946. Au début de janvier de cette année, peu avant la liquidation du sinistre camp d'extermination d'Auschwitz, Auschwitz, quelques jeunes garçons des plus sérieux avaient projeté de créer une sorte de recueil intitulé Auschwitz qui collecterait poèmes, descriptions, impressions du vu et vécu. Les cahiers, en plusieurs exemplaires, devaient être ensevelis dans des bouteilles en différents endroits, sur des lieux de travail hors du camp. On devait mettre dans le secret quelques Polonais de confiance avec qui on travaillait et leur demander, une fois les tombes libérées, en fait, ici, c'est le mot kaiver, le mot hébraïque, qui est utilisé pour tombe. Cela signifie que les Juifs, en fait, sont comme enterrés vivants dans les baraques. Mais le mot peut aussi renvoyer aux chambres à gaz, appelées bunker, dans lesquelles ils descendaient vivants. De toute façon, les Juifs n'avaient évidemment aucune tombe dans les camps. Donc, une fois les tombes libérées, d'exhumer ces cahiers, de les remettre entre des mains juives. Ces garçons, comme tous ceux qui se trouvaient à Auschwitz, étaient convaincus qu'ils n'en reviendraient jamais. Et le recueil projeté serait une tentative pour refléter leur souffrance, une expression de leur amère misère, une sorte de justification pour leur vie qui leur paraissait si terrible et sans valeur, au vu des atrocités à glacer le sang dont ils avaient été témoins. Il devait aussi y avoir dans ce recueil quantité de matériaux, collecte de faits d'intérêt historique ainsi que des descriptions des ghettos et des crimes commis par les bandits nazis avant l'arrivée au camp. Il avait déjà été écrit quelques beaux poèmes hébraïques par un jeune poète hébraïque hongrois, une apologie dans « Une lettre à mon frère en Eretz Israël » et autres textes. Ce projet n'a pu aboutir car deux semaines plus tard, devant l'approche de l'armée russe, le camp a été évacué. Les textes sont restés entre les mains de ceux qui les avaient écrits et ce qui suit devait être la préface à ce recueil. Je ne change rien à ce texte, car je le considère comme un document sur Auschwitz, écrit à Auschwitz même. C'est un regard sur le camp de la mort, vu à travers les lunettes du camp. Il est aussi l'expression des sentiments de beaucoup de camarades et de compagnons de souffrance, et je pense qu'en tant que tel, il doit avoir aussi une certaine valeur. Et voici donc quelques lignes de cette introduction même au projet du recueil qui n'a pas vu le jour. J'ai lu autrefois l'histoire d'hommes qui faisaient un voyage au pôle Nord et dont les bateaux se sont trouvés pris dans les glaces. Tous leurs appels par SOS sont restés sans réponse. Leur nourriture s'est épuisée, le gel les a enserrés dans son étau et, ainsi coupés du monde, mourant de faim et de froid, ils attendaient la mort. Pourtant, ces hommes n'ont pas lâché leurs crayons d'entre leurs doigts gelés, ils ont continué à noter dans leurs journaux de bord. Devant leurs yeux planait l'éternité. Combien j'ai alors été émue que des hommes, en de si tragiques conditions, si impitoyablement rejetés par la vie, déjà tenus dans les griffes de la mort, que de tels hommes aient su ainsi s'élever au-dessus de leur propre sort pour continuer à accomplir leur tâche pour l'éternité. Nous tous, qui mourons ici dans la froide indifférence polaire des peuples, oubliés du monde et de la vie, ressentons pourtant la nécessité de laisser quelque chose pour l'éternité, sinon des documents complets, du moins des bribes. Que l'on sache ce que nous, les morts vivants, avons ressenti, pensé et dit. Sur les tombes où nous gisons ensevelis vivants, le monde danse une sarabande de démons, et l'on foule aux pieds nos soupirs et nous appelle au secours. Une fois que nous serons étouffés, on s'emploiera à nous déterrer. Alors, nous ne serons plus, mais notre cendre sera dispersée à tous les coins du monde à ce moment-là. Tout homme de culture et respectable tiendra pour son devoir de nous regretter et de prononcer notre oraison funèbre. Lorsque nos ombres apparaîtront sur les écrans et les scènes de théâtre, des dames compatissantes essuieront leurs yeux de leurs mouchoirs parfumés et nous plaindrons, hélas, les malheureux. Nous le savons. Nous ne sortirons pas d'ici vivants. Sur le portail de cet enfer, le diable a inscrit de sa main « Abandonnez tout espoir, vous tous qui entrez ici. » Nous voulons prononcer nos dernières volontés, que ce soit notre chemin Israël pour les générations futures. que ce soit la confession dernière d'une génération tragique, d'une génération qui n'a pu grandir pour accomplir sa tâche, dont les jambes rachitiques se sont brisées, sous le lourd fardeau du martyre que cette époque a posé sur nos épaules. Pourtant, voilà pourquoi il ne s'agit pas pour nous de collecter ici faits et chiffres, de rassembler de froids et secs documents. Cela se fera même sans nous. On pourra sans notre aide reconstituer l'histoire d'Auschwitz, comment on mourait à Auschwitz, il y aura des images, des témoins, des documents pour le raconter. Mais nous voulons ici créer aussi le tableau de comment on vivait à Auschwitz, à quoi ressemblait un jour normal, un jour de travail ordinaire au camp, un jour tissé d'un enchevêtrement de vie et de mort, de terreur et d'espoir, de résignation et de volonté de vivre, un jour dont chaque minute ignore ce que la suivante apportera. Comment on pioche et tranche à la hache des lambeaux de notre propre vie, de sanglants lambeaux, de jeunes années que l'on charge pente lente sur le tombereau du temps, lequel grince d'un ton si gémissant et se traîne si lourdement sur les rails de fer des conditions du camp. Et le soir, on renverse le tombereau avec son chargement, épuisé à mort dans l'abîme profond. Ah, qui tirera de l'abîme ce jour sanglant, avec son ombre noire, la nuit noyée d'angoisse, pour le montrer à la face du monde? Oui, des hommes sortiront d'ici vivants, des non-juifs. Que raconteront-ils de notre vie? Que savent-ils de nos souffrances? Que savaient-ils en des temps normaux de la misère juive? Tout ce qu'ils savaient, c'est que nous sommes un peuple de Rothschild. Maintenant aussi, ils ramasseront avec diligence les papiers de margarine et les pots de saucisson pour montrer au monde que les Juifs n'avaient pas si mauvaise vie au camp. Ils n'auront pas envie de fouiller dans le dépotoir de la mémoire pour en faire surgir les spectres livides aux yeux éteints, toujours terrorisés, qui se traînaient en silence près des blocs et avec leurs cuillères pressées dans leurs doigts bleuis, grattaient le fond des tonneaux de soupe, fouillaient dans les poubelles, 10 fois chassés à coups de trique en quête de miettes de pain moisi. Les malheureux, chancelants comme de vacillantes flammes de bougies, qui s'éteignaient sans avoir la possibilité de réaliser leur unique rêve, pouvoir au moins une fois manger à sa faim. Les milliers de ceux surnommés dans la langue du camp musulmans, à l'égard de tout cadre et fonctionnaire du camp, se sentaient l'obligation d'accomplir le commandement auschwitzien de « Azov ta Azov » tiré de l'Exode, chapitre 23, verset 5. « Si tu vois l'âne de ton ennemi succomber sous sa charge, garde-toi de l'abandonner, tu dois l'aider à le décharger. « Azov ta Azov », tu dois l'aider, et on les aidait à mourir. Ce sont eux, les faibles et impuissants, les milliers d'inconnus qui portaient sur leurs faibles épaules toute la misère, toute la cruauté et l'horreur du camp. Toutes, car même la part des privilégiés, ils devaient la porter. Et ils ont traîné la charge jusqu'à tomber et une paire de bottes bien astiquées de capot les a piétinées à mort, comme des vers. De cela, les non-juifs ne diront rien. Nous devons raconter nous-mêmes ce qui nous concerne. Nous nous rendons bien compte que pour écrire et créer quelque chose qui reflète et exprime notre tragédie, les forces nous manquent. Toutefois, notre écriture ne doit pas être pesée sur la balance littéraire. On doit l'envisager comme un document et en tant que tel prendre en considération non la valeur artistique de l'œuvre, mais tenir compte du lieu et du temps. Et le temps est juste avant la mort et le lieu sur l'échafaud. Seul à l'artiste sur scène, il est demandé qu'il crie, pleure et gémisse dans toutes les règles de l'art, car lui ne souffre pas. En fin de compte, personne ne se risquera à critiquer la victime concernée de gémir trop fort ou de pleurer trop doucement. Et nous avons beaucoup à dire, même si du point de vue littéraire, nous sommes bègues. Nous raconterons, comme nous le pourrons, en notre langue. Même les muets, quand ils souffrent, ne peuvent se taire. Ils parlent alors, mais en leur langage, en langue des signes. Se taire, seuls le font les Bonche. Bonche est le personnage de la nouvelle de Yudlamet Peretz, Bonche le silencieux. Ils prennent une mine mystérieuse, comme s'ils avaient on ne sait quel grand secret à dire. et c'est seulement dans l'autre monde, le monde de vérité, où pauses et feintes n'ont plus cours, qu'ils révèlent la secrète aspiration de leur vie, un petit pain au beurre, car telle est l'aspiration que Banché révèle au moment où il arrive au tribunal d'en haut, après sa mort, lui qui n'a jamais rien réclamé de son vivant. Voici donc une partie de cette introduction au projet du recueil à Auschwitz. L'auteur, Avraham Levit, il ne fait guère de doute, poursuit Philippe Ménard dans l'introduction à cet ouvrage, « Traces de vie à Auschwitz », un manuscrit clandestin, édité sous la direction de Philippe Ménard par les éditions Le Bord de l'eau en 2022. Il ne fait guère de doute, poursuit donc Philippe Ménard, que l'on ne peut attribuer ces pages qu'à lui seul. Ce qu'elles donnent à lire vient d'un groupe de jeunes gens. C'est ce qui est indiqué. C'est pourquoi, si l'on rend hommage à Avraham Levit à travers les informations qui nous sont parvenues sur sa vie et pour l'opiniâtreté avec laquelle il a sauvé ce texte et en a assuré la pérennité, il serait bien limitatif d'en rester au stade biographique. C'est un texte hors norme qui demande au lecteur d'aller au-delà de la nomination d'un individu, mais dont l'histoire est toutefois indissociable d'Avraham Levit. En outre, l'introduction au recueil à Auschwitz se caractérise par une dimension d'inaccomplissement consistant en un véritable projet éditorial. Celui-ci existe grâce à la tension vers et dans un futur qui l'anime. À Auschwitz, un futur. Ça sonne tout de même assez bizarrement. Ce projet est celui d'une anthologie rassemblant des textes, toutes sortes de textes et de traces de vie, de la vie à Auschwitz. Des textes clandestins dont l'écriture même exprime la volonté de dépasser l'anéantissement auquel le système concentrationnaire nazi vouait les Juifs. Il faut rappeler ici que, pendant la Seconde Guerre mondiale, la pratique de l'écriture clandestine était la seule alternative dont pouvaient se saisir les Juifs d'Europe pour témoigner de leurs conditions et de leur disparition. Qu'ils soient reclus dans des appartements cachettes, parqués dans des ghettos ou assignés au quartier des chambres à gaz, comme les Sonderkommando. Ainsi, l'introduction au recueil d'Auschwitz contient une partie programmatique qui, se projetant vers l'après-Auschwitz, répond à la nécessité de ne pas laisser à d'autres le pouvoir d'écrire l'histoire de cette catastrophe qui se nomme en yiddish « Churban ». Churban, le mot vient de l'hébreu « churban », qui signifie « destruction ». Mais si ce projet est unique, l'initiative dont il participe s'inspire et se nourrit d'autres expériences d'écriture et de collecte propres aux communautés juives. Il prend place dans un enchâssement de traditions d'écriture testimoniale, non seulement ancestrale, mais aussi dont la modernité s'affirme au tournant du XIXe et XXe siècle. Pour celle-ci, le moment clé a été la prise de conscience de la destruction radicale et non plus partielle et périodique qui guettait le monde juif d'Europe de l'Est au début de la guerre de 1914-1918. Toutefois, ce texte programmatique n'oublie pas notre présent, à la rencontre duquel il vient pour le déranger, au même titre qu'il conteste par anticipation avec une étonnante clairvoyance critique l'édifice de la mémoire à venir d'Auschwitz. On sera étonné de lire l'ironie mordante, qui n'aura pas échappé à l'auditeur, développée à l'égard de celles et ceux qui s'apitoient sur ces souffrances dès lors qu'elles leur sont représentées. Avis donc aux lectrices et aux lecteurs, l'acuité critique de cette introduction, la richesse des références, provenant aussi bien de la culture, de la religion juive, que de sources universelles, sont autant de spécificités sur lesquelles les commentaires du volume vont s'attarder à plusieurs reprises. Le volume, donc, Traces de vie à Auschwitz, qui partent de cette introduction à un manuscrit qui n'a pas vu le jour. Comment, encore une fois, ne pas être frappé par cette parole écrite qui évoque la vie à Auschwitz, qui convoque les explorateurs des pôles, qui signale l'échafaud que ce groupe de jeunes transforme en écritoire, précise Philippe Ménard. Les répétitions ont la vertu de rappeler à l'attention du lecteur ce que parfois il croit avoir trop vite acquis et risque de trop vite oublier. Nous renvoie à ce que nous avons lu venant d'autres auteurs. Elle contribue à produire doublement un effet de collectif. Car nous aussi, lectrices et lecteurs, nous formons une communauté de sens, en quête de sens. Carlo Ginzburg, ce théoricien de la micro-histoire, raconte ce moment déterminant de sa carrière lorsque, encore étudiant, il suivait les séminaires de l'historien Delio Cantimori. Les séminaires, explique-t-il, se déroulaient chaque matin pendant 3 heures et à la fin de la semaine, on avait lu 20 lignes. Cela m'a ébloui. Cette lenteur et l'idée d'aller en profondeur dans un texte, l'idée de lire lentement. Fin de citation. Et précisément, les pages de l'introduction au recueil d'Auschwitz nous invitent à les lire lentement, à vivre lentement l'expérience de leur lecture, ce qui va évidemment à contre-courant du rythme effréné qui est le nôtre aujourd'hui. La brièveté et l'intensité de ce texte n'ont d'égal que son ouverture. Rédigé dans un espace clos, sa nature est d'accueillir les traces de tout un groupe pour emporter l'espoir et transmettre la ferveur. En cela, son intention critique s'exprime également à l'encontre de cette sorte d'idée reçue, suivant laquelle survivre à tout prix serait le moteur exclusif des comportements lorsque les hommes sont soumis à des contraintes extrêmes. Ce texte, son projet, ses filiations mettent la transmission d'un savoir critique au-dessus de tout, puisque ceux qui l'ont rédigé savaient qu'ils allaient certainement mourir et qu'ils s'exposaient à une mort des plus brutales si leur projet était découvert par les gardiens du camp. Donc cet ouvrage, qui vous l'aurez compris, ne comporte pas ce manuscrit clandestin, puisque les écrits n'ont jamais pu être collectés, mais il comporte des réflexions sur le texte et sa trajectoire par David Suchov, sur les derniers jours d'Auschwitz par Frediano Sessi, le recueil d'Auschwitz, donc traduit du yiddish par Rachel Hertel cette fois. On a 2 traductions côte à côte du même texte, une par Batia Baum, l'autre par Rachel Hertel, suivie de commentaires de Rachel Hertel, écrire depuis l'échafaud de Arnold Davidson, le souci anthologique de Philippe Ménard, au seuil entre la vie et la mort par Jeffrey Wallen, nous ne serons pas des Bonche par Marie Schumacher-Brune, donc Bonche, ce personnage justement de la nouvelle de Peretz, et la traduction de Bonche, le silencieux, par Batia Baum, en fin de recueil. Je ne peux donc que vous convier à la lecture de ce recueil, de ces traces de vie à Auschwitz, de cette édition commentée par plusieurs auteurs, de cette introduction au recueil à Auschwitz, de Sammelbuch Auschwitz, qui n'a jamais vu le jour.
Sag nicht kein Mal, als du gehst dem letzten Weg. Himmlen bleien, er verstellen blaue Teg. kommen wird doch unser uns gedenkte Schor. Sveta poigt an unser Trott, mir sinnen do. Kommen wird doch unser uns gedenkte Schor. Sveta poigt an unser Trott, mir sinnen do. Von grünem Palmenland bis Land von weißem Schnee. Wir kommen um mit unser Pein, mit unser Weh. Ohne wo gefallen, sie ist ein Spritz von unser Blut. Sprotzen wird dort unser Gwure, unser Mut. Ohne wo gefallen, sie ist ein Spritz von unser Blut. Sprotzen wird dort unser Gwure, unser Mut. Es wird die Morgensonne begilden uns dem Heid. Und der Nächten wird verschwinden mit dem Feind. Nur heute versammeln wird die Sonne und der Kajor. Wie ein Parol soll gehen das Lied von Dor zu Dor. Nur heute versammeln wird die Sonne und der Kajor. Wie ein Parol soll gehen das Lied von Dor zu Dor. Das Lied geschrieben ist mit Blut und nicht mit Blei. Es ist nicht kein Lied von einer Fegeläuf der Frei. Das hat ein Volk zwischen fallenden gewählt. Das Lied gesungen mit Maganes in die Hand. Das hat ein Volk zwischen fallenden gewählt. Das Lied gesungen mit Maganes in die Hand. Sag nicht kein Mal, als du gehst den letzten Weg. Wenn Himmeln bleien, verstehen blaue Tag. Kommen wird doch unser uns gebänkte Schor. Sveta poigt an unser Trott, mir sinnen do. Kommen wird doch unser uns gebänkte Schor. Sveta poigt an unser Trott, mir sinnen do.